Chapitre 39. Je ne peux plus continuer. J'ai trop mal, se plaignit Nikki en s'asseyant sur le trottoir de la rue Mornay. Sébastien s'agenouilla près d'elle. Je crois que j'ai une entorse, se désola-t-elle en massant sa cheville. Il examina l'articulation. Elle était gonflée et une légère ecchymose commençait à se dessiner. Si la douleur avait été supportable pendant 2 heures, elle devenait si aiguë qu'elle empêchait à présent Nikki de mettre un pied devant l'autre. Courage, on y est presque. Il faut qu'on se trouve un abri pour la nuit. Sais-tu seulement où tu nous emmènes? Vexé, il lui demanda si elle avait un plan. Non, admit-elle. Alors fais-moi confiance. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, lui offrit son bras et ils avancèrent clopin-clopant jusqu'au boulevard Bourdon. On est encore en bord de Seine? S'étonna-t-elle. Presque, répondit-il. Ils traversèrent la rue pour se retrouver le long d'un quai en pierre blanche. Nikki se pencha. Une longue promenade de plus de 500 mètres courait le long de l'eau. Où est-on exactement? Au port de plaisance de l'Arsenal, entre le canal Saint-Martin et la Seine. Et tu sors cet endroit de ton chapeau, comme ça? J'ai lu un article dans le magazine touristique qui se trouvait dans l'avion. J'ai retenu son nom parce que c'est aussi celui d'une équipe de football anglaise que supporte Camille. Tu as un bateau amarré? L'asticota-t-elle. Non, mais on peut en trouver un, enfin. Sauf si tu as trop mal pour escalader cette barrière. Elle le regarda et ne put s'empêcher d'esquisser un sourire malgré la gravité de la situation. Lorsqu'ils étaient tous les deux dans cet état d'esprit, elle se sentait invincible. La grille devait mesurer 1,50 m. Une large pancarte en bois rappelait que l'accès au port était interdit au public de 23 h à 6 h du matin et qu'un gardien et son chien effectuaient des rondes toute la nuit. Tu penses que c'est quelle race de chien? Plutôt caniche ou pitbull? S'amusa-t-elle en s'agrippant au portail. Elle franchit le portillon avec difficulté et il la suivit sur les quais. Étonnamment calme, le site comptait plus d'une centaine de postes d'amarrage comprenant des embarcations de toute taille, depuis la boathouse, la plus luxueuse, jusqu'au vieux raffio à rafraîchir. La disposition des navires rappela à Nikki les canaux d'Amsterdam qu'elle avait découverts lorsqu'elle était mannequin. Ils parcoururent le quai, scrutant attentivement les bateaux. « Bon, je te rappelle qu'on n'est pas là pour faire une acquisition, » s'impatienta Sébastien. « On veut juste dormir quelques heures. »« Celui-ci n'a pas l'air mal, non ?»« Trop luxueux, je te parie qu'il est équipé d'une alarme. »« Celui-là, alors ?» Elle désigna un petit tchalk, une péniche hollandaise, longue d'une douzaine de mètres, à la coque étroite et à la proue en parfait arc de cercle. Sébastien plissa les yeux. Toutes les embarcations alentour semblaient désertes. On distinguait un panneau « à vendre » placardé sur la vitre du bateau. Effectivement, celui-ci semblait parfait. Sébastien sauta sur le pont et, avec une aisance qui sidéra Nikki, balança un violent coup de pied qui fit exploser la porte en bois de la timonerie. « On dirait que tu as fait ça toute ta vie !» constata-t-elle en le rejoignant. « J'ai du mal à croire qu'il y a 2 jours tu bichonnais encore des violons dans ton atelier. On n'est plus à ça près, non ?» Je dois être recherché pour meurtre sur 2 continents, sans compter un délit de fuite, une affaire de trafic de drogue, l'agression d'un capitaine de bateau mouche. C'est ça, on est Bonnie and Clyde, se moqua-t-elle en pénétrant dans la barque. De la timonerie, on accédait au salon organisé autour de 2 banquettes. Le tchalk était une ancienne péniche de fret reconvertie en bateau de plaisance. La décoration intérieure était sommaire, mais plutôt accueillante, à condition d'aimer le style vieux loup de mer. Drapeau de corsaire, maquette de navire en bouteille, lampe à pétrole, cordage. Du salon, ils gagnèrent le couchage de la cabine arrière. Après avoir inspecté la propreté des draps, Nikki se laissa tomber sur le lit. Visiblement, son entorse lui faisait souffrir le martyre. Sébastien empila 2 oreillers au pied de la couchette et l'aida à maintenir sa cheville surélevée. « Je reviens !» À l'avant du bateau, il découvrit une petite cuisine équipée, isolée par une porte à claire-voie. Par chance, le réfrigérateur fonctionnait. Il vida les 2 bacs à glaçons dans un sac en plastique avant de revenir dans la chambrette. « C'est froid !» cria Nikki alors qu'il appliquait la glace sur la zone endolorie. « Arrête de faire ta chochotte, ça va réduire l'enflure !» Presque instantanément, la glace soulagea en effet la douleur. Nikki profita de ce répit pour attraper son sac et en sortir le Love Lock. « Examinons ce cadenas plus attentivement. » Le boîtier métallique n'avait rien de particulier, hormis les autocollants et 2 séries de chiffres gravés l'une sous l'autre. 48, 54, 06, 2, 20, 12. Je n'en peux plus de ces énigmes à la Da Vinci Code, s'énerva Sébastien. Après tout, c'est peut-être Dan Brown qui a enlevé Jérémy, plaisanta Nikki pour détendre l'atmosphère. Nikki était comme ça. Elle avait volontiers recours à l'humour pour surmonter les situations les plus graves. C'était chez elle une seconde nature. Mais Sébastien n'était pas d'humeur. Il la foudroya du regard avant de proposer « Pourquoi pas un numéro de téléphone ?» Avec le préfixe 48, ça m'étonnerait. En tout cas, ça ne correspond ni aux États-Unis ni à la France. Je ne sais pas si l'information est remontée jusqu'à toi, mais il y a d'autres pays dans le monde. Emporté par son élan, il sortit dans le salon. Au milieu du fatras, il trouva un annuaire téléphonique poussiéreux qu'il rapporta dans la chambre. « 48 correspond à l'indicatif international de la Pologne, lut-il. » Nikki fut immédiatement gagnée par l'excitation et l'inquiétude. « La Pologne ? Son pays d'origine ? Il faut qu'on essaie d'appeler le numéro ? » Mais comment procéder ? Sébastien s'était fait voler son téléphone. Nikki venait de se débarrasser du sien pour ne pas être repérée. « Il me reste ma carte de crédit, » remarqua-t-elle en agitant le petit rectangle plastifié. Ses yeux étaient brillants de fatigue. Sébastien posa la main sur le front de Nikki. Elle était brûlante de fièvre. « On essaiera d'appeler demain matin, depuis une cabine publique, » décida-t-il. « À présent, tu dois te reposer. » Il fit un détour par la salle de bain, attrapa une boîte d'ibuprofène et en donna une gélule à Nikki, tandis qu'elle s'endormait en marmonnant. Puis il mit en marche le petit chauffage d'appoint posé au pied du lit et éteignit la lumière avant de s'éclipser par les portes battantes. Le frigo était vide, à l'exception d'un pack de yaourts périmés et d'une dizaine de bouteilles de mort subite. Sébastien décapsula une bière et sortit la boire sur le pont. Le port était silencieux, intemporel. Une enclave retranchée à quelques centaines de mètres seulement de l'agitation de la place de la Bastille. Sébastien s'assit par terre, le dos appuyé contre le bois de la coque. Il allongea ses jambes, prit une gorgée et reposa le cadenas dans le sac de Nikki. Il y trouva un paquet de cigarettes. Il en alluma une et profita de l'occasion pour fouiller dans le portefeuille de son ex-femme. Comme il s'y attendait, il en sortit une photo récente de leurs enfants. Camille et Jérémy étaient des jumeaux d'Isigoth. Bien que nés le même jour, difficile de repérer un air de famille, tant Camille était une Larrabee et Jérémy un Nikowski. C'était frappant. Camille ne ressemblait pas à sa mère. Elle était jolie, mais avec une bouille plus ronde, des fossettes, un nez retroussé et des traits doux. Jérémy, lui, avait hérité de l'ascendance polonaise de Nikki. Une beauté froide comme inaccessible, un corps élancé, des cheveux raides, un nez bien dessiné, des yeux très clairs. Une ressemblance qui s'était affirmée avec l'âge et qui mettait Sébastien mal à l'aise. Il tira une longue bouffée de sa cigarette en se remémorant ce que lui avait reproché Nikki 2 heures plus tôt. Avait-il égoïstement privilégié son amour-propre au détriment de l'amour de ses enfants ? Sans doute les choses n'étaient-elles pas aussi tranchées, mais elles n'étaient pas fausses. Toutes ces années, obnubilé par ses propres blessures, il avait cherché inconsciemment à se venger de Nikki. Animé par la rancune, il avait désiré la punir, lui faire payer l'échec de leur couple, puis leur séparation. Mais c'est à ses enfants qu'il avait sans doute fait le plus de mal. Cette volonté de séparer de façon étanche l'éducation des jumeaux était absurde et irresponsable. Certes, il ne le découvrait pas aujourd'hui, mais jusque-là, il s'était toujours trouvé de bonnes raisons pour justifier son comportement. À la lumière de la lune, Sébastien fixait intensément la photo de son fils. Leur relation était floue, distante, minée par une foule de malentendus. Il l'aimait, bien sûr, mais d'un amour un peu abstrait qui manquait de chaleur et de complicité. C'était en grande partie sa faute. Il n'avait jamais porté sur son fils un regard bienveillant. Il le comparait sans cesse à Camille et la compétition n'était jamais à l'avantage de Jérémy. Trop vite, il l'avait considéré avec méfiance, un peu comme une cause perdue d'avance. Même si cela n'avait aucun sens, il s'imaginait que Jérémy ne pouvait que le décevoir puisque sa mère, à qui il ressemblait tant, l'avait déçu avant lui. Ces derniers temps, lorsqu'ils se voyaient, ils ne partageaient plus rien. Sébastien traînait parfois son fils à une exposition ou à un récital de violon, mais c'était pour mieux se désoler de son manque d'intérêt pour ses sorties. Ce qui était injuste, puisqu'il n'avait pas vraiment pris le temps de l'intéresser à l'art ou à la musique classique. En fouillant sa chambre avec Nikki, il avait été surpris de découvrir les rayonnages de livres consacrés au 7e art. Sans doute par peur de ses sarcasmes, Jérémy ne lui avait jamais parlé de son désir d'intégrer une école de cinéma ni de son projet de devenir réalisateur. C'est vrai qu'il n'avait pas su lui donner confiance dans ses choix. Sébastien termina sa bouteille en observant de loin la colonne de la Bastille qui brillait dans la nuit. Était-il encore temps de rattraper ses maladresses et ses erreurs? De renouer un dialogue avec son fils? Peut-être, mais pour cela, il fallait d'abord qu'il le retrouve. Il alluma une autre cigarette avec son mégot et prit la décision de ne pas attendre le lendemain pour explorer la piste du numéro de téléphone polonais. Après s'être assuré que Nicky s'était endormi, il s'empara du cadenas et le mit dans sa poche. Puis il quitta le bateau en sautant sur le quai.